Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour méditer ensemble sur les versets 1 à 6 de la Sainte Sourate Bayana. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما حنفاء ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيمة صدق الله العلي العظيم.
Ceux les gens du livre qui m'écroient, ainsi que les faiseurs de Dieu, ne cesseront pas jusqu'à ce que leur vienne la preuve. Un messager de la part de Dieu récite des feuilles purifiées, où sont des prescriptions droites. Et à ceux qui le livre a été donné, ne se sont divisés qu'après que la preuve leur fut venu. Il ne leur a été commandé, cependant, que d'adorer Dieu en purifiant pour lui la religion en sincère et d'établir l'office et d'acquitter l'impôt. Et voilà la religion de droiture. Oui, ceux des gens du livre qui m'écroient, ainsi que les faiseurs de Dieu, au feu de la gêne, pour y demeurer éternellement. De toute la création, ce sont eux les pires.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur les ondes de la Voix de la République islamique d'Iran ce vendredi soir 10 septembre 2021. Merci infiniment d'être fidèle à la radio francophone iranienne, bienvenue dans le journal. Une approche non constructive de l'Agence internationale de l'énergie atomique perturberait le processus de négociation, a mis en garde le président iranien lors d'un entretien téléphonique avec le président du Conseil européen. Le ministre iranien des Affaires étrangères s'est entretenu avec le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, des développements régionaux et internationaux. De grands rassemblements organisés en Cisjordanie à Al-Rots en solidarité avec les prisonniers palestiniens et évadés. Et le chef du gouvernement d'Union nationale libyenne est en visite officielle en Tunisie. C'était le principal titre de l'actualité. En voici le journal. Lors d'un entretien téléphonique avec le président du Conseil européen, le président iranien Ebrahim Raisi a averti contre une approche contre-productive de l'Agence internationale de l'énergie atomique qui risque de perturber le processus de pourparlers à Vienne. Le président Raisi a déclaré lors de cet entretien téléphonique que la République islamique d'Iran avait tendance à développer ses relations avec l'Union européenne et les pays européens dans des domaines d'intérêt mutuel. Le président iranien s'attarde sur le fait qu'une poursuite durable des relations bilatérales avec l'Union européenne et chacun des États membres dépend du principe de respect mutuel, de se concentrer sur les affinités communes et d'éviter l'influence de facteurs externes sur ces relations, a ajouté « Cette question nécessite une volonté pratique européanisme pour ne pas permettre aux puissances unilatérales telles que les États-Unis d'imposer leur velléité au détriment de nos relations. » Nous allons revenir en détail sur ce sujet dans notre commentaire politique. Le ministre iranien des Affaires étrangères s'est entretenu avec le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, des développements régionaux et internationaux, y compris la situation en Afghanistan et les perspectives de futurs pourparlers sur la relance de l'accord nucléaire iranien à Vienne. Au cours de cet entretien téléphonique, Amir Abdullahian a déclaré à Guterres que la République islamique d'Iran s'est engagée dans les pourparlers en tant qu'outil de diplomatie. Malheureusement, les Américains ont été pris dans une erreur de calcul en raison de la poursuite de leurs sanctions illégales et pensent qu'ils peuvent les utiliser comme monnaie d'échange dans les pourparlers nucléaires, a déclaré le chef de la diplomatie iranienne. Les parties en négociation doivent arriver à Vienne équipées d'une compréhension réaliste et prêter une attention sérieuse aux droits et intérêts de la nation iranienne. À notre avis, seules sont acceptables les négociations qui conduisent à des résultats tangibles, a déclaré Amir Abdullahian. Il s'est déclaré préoccupé par les mouvements terroristes en Afghanistan et dans la région et a dénoncé l'utilisation du terrorisme comme outil par certaines puissances, le décrivant comme le principal obstacle à la paix, la stabilité et le calme dans la région. Le chef de la diplomatie iranienne a exprimé la volonté de la République islamique d'Iran de coopérer avec le secrétaire général de l'ONU afin de résoudre politiquement la situation en Afghanistan dans la continuité des réunions entre les pays voisins de l'Afghanistan, l'ONU jouant un rôle dans le processus. Les deux parties ont également souligné la nécessité de former un gouvernement inclusif dans lequel toutes les ethnies afghanes jouent un rôle, affirmant que la guerre et la violence ne doivent pas prévaloir en Afghanistan. Pour sa part, le secrétaire général de l'ONU a remercié la République islamique d'Iran pour son hospitalité dans l'accueil des réfugiés afghans et a souligné qu'il était déterminé à soutenir les efforts de l'Iran dans l'accueil des réfugiés. Il a également décrit l'ONU comme un partisan du dialogue et de l'accord, appelant à la reprise des pourparlers de Vienne. Les ministres iraniens et qataris des Affaires étrangères se sont rencontrés jeudi matin à Téhéran pour discuter des derniers développements bilatéraux, régionaux et internationaux. Lors de sa visite à Téhéran, le ministre qatari des Affaires étrangères, Mohamed bin Abdurrahman bin Jassim al-Thani, a rencontré jeudi matin son homologue iranien, Hossein Amir Abdullahian, pour discuter des derniers développements bilatéraux, régionaux et internationaux. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Amir Abdullahian, a eu également un entretien téléphonique avec le ministre des Émiratis des Affaires étrangères, Cheikh Abdullah bin Zayed, avec qui ils avaient abordé les derniers développements régionaux. De grands rassemblements organisés en Cisjordanie à Al-Rod en solidarité avec les prisonniers palestiniens évadés. Les Palestiniens ont organisé des manifestations à grande échelle en Cisjordanie et Al-Rod s'occupait en solidarité avec les 6 prisonniers qui se sont évadés de la prison de Gilboa. Des manifestations ont été signalées près de la porte de Damas à Al-Rod, à Al-Khalil, à Oura, à Zoum, près du tombeau de Rachel à Bethléem et dans d'autres lieux en Cisjordanie occupée. Les manifestants ont escandé des slogans israéliens et ont porté des pancartes indiquant 6 lions qui ont trouvé la lumière au bout du tunnel, la liberté pour nos prisonniers. L'intervention de Washington dans les affaires de la Syrie et d'autres pays a abouti à l'apparition des réseaux terroristes, selon Moscou. Le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Oleg Sirov-Molotov, a affirmé que l'intervention américaine dans les affaires de la Syrie, de l'Irak et de la Libye a abouti à l'apparition des réseaux terroristes. Siron Molotov a indiqué dans une interview publiée par l'agence de presse russe RIA Novosti que les États-Unis ignorent le droit international représenté par l'intervention illégitime dans les affaires intérieures et la violation de l'intégrité territoriale de l'Irak, de la Libye et de la Syrie, ce qui aboutit à l'apparition des plus dangereux réseaux terroristes sur les territoires de ces pays. Il a également souligné que la principale leçon à tirer par la communauté internationale est que la guerre contre le terrorisme doit être menée sur la base de l'égalité et le strict respect des règles et principes du droit international. Le chef du gouvernement d'Union nationale libyen entame une visite officielle en Tunisie. Le chef du gouvernement d'Union nationale libyen, Abdelhamid Zaibar, à la tête d'une délégation de haut niveau, est arrivé à Tunis pour une visite officielle dans le pays, a confirmé l'ambassade de Libye en Tunisie. Selon des médias tunisiens et libyens, cette visite sera l'opportunité pour les deux pays d'examiner le dossier de la réouverture de leurs frontières, mais aussi de clarifier les positions des deux parties sur certaines questions, afin de faire la lumière sur des rumeurs relayées sur les réseaux sociaux qui semblent le doute sur la relation entre ces deux pays voisins. C'est la fin de notre journal d'information. Merci infiniment de l'avoir suivi. Reste avec nous. Nous allons vous présenter dans une poignée de secondes notre commentaire politique. L'Iran met en garde contre l'approche contre-productive de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Lors d'un entretien téléphonique avec le président du Conseil européen, Charles Michel, le président iranien Ebrahim Raisi a averti contre une approche contre-productive de l'Agence internationale de l'énergie atomique qui risque de perturber le processus des pourparlers à Vienne. Le président Raisi a déclaré lors de cet entretien téléphonique que la République islamique d'Iran avait tendance à développer ses relations avec l'Union européenne et les pays européens dans des domaines d'intérêt mutuel. Le président Raisi, s'attardant sur le fait qu'une poursuite durable des relations bilatérales avec l'Union européenne et chacun des États membres dépend du principe de respect mutuel, de se concentrer sur les affinités communes et d'éviter l'influence de facteurs externes sur ces relations, a ajouté que cette question nécessite une volonté pratique européanisme pour ne pas permettre aux puissances unilatérales telles que les États-Unis d'imposer leur velléité au détriment de nos relations. Se penchant sur les évolutions afghanes, le président Raisi a déclaré « Tous les pays doivent travailler ensemble pour établir un gouvernement en Afghanistan étant d'une part en mesure d'y apporter la paix, la sécurité, la tranquillité et de l'autre de gagner la confiance du peuple afghan. » S'agissant de la question des pourparlers à Vienne visant à relancer le plan global d'action conjoint sur le nucléaire iranien de 2015, le président Raisi a noté « L'Iran n'a jamais violé le pacte multilatéral. Ce sont les Américains qui ont abandonné unilatéralement l'accord nucléaire et l'ont violé. Néanmoins, nous nous attendions à ce que les Européens respectent leurs engagements liés à l'accord et compensent le retrait destructif des Américains. Mais les Européens n'ont pas respecté ce qu'ils avaient convenu dans le pacte multilatéral, a déploré le président iranien. Concernant la coopération de l'Iran avec l'Agence internationale de l'énergie atomique, le président Raisi a déclaré « La coopération sérieuse de la République islamique d'Iran avec l'AIEA reflète manifestement sa volonté de transparence dans ses activités nucléaires. Naturellement, en cas de gestes contre-productifs anti-iraniens au sein de l'Agence internationale de l'énergie atomique, il est déraisonnable d'attendre de l'Iran une réponse constructive. Les actions non constructives perturbe naturellement le processus de négociation, a-t-il prévenu. S'attardant sur la politique iranienne de Washington, il a ajouté « Le point important à cet égard est que, bien que l'administration Trump ait quitté le pouvoir aux États-Unis et que l'administration Biden soit accédée à la Maison-Blanche, mais dans la pratique, il n'y a eu aucun changement dans la stratégie américaine à l'égard de l'Iran. Nous assistons toujours aux mêmes approches et aux mêmes mesures, à savoir pas sanctions et pression, a souligné le président iranien. Pour sa part, le président du Conseil de l'Europe, Charles Michel, a souligné lors de cette conversation téléphonique que l'Union européenne est sérieusement intéressée par le renforcement des relations bilatérales et l'élargissement de la coopération économique avec l'Iran. Les sanctions ont eu un effet négatif sur les relations Union européenne et d'Iran et l'une des raisons pour laquelle le concept d'indépendance stratégique est devenu si important pour l'Union européenne, a-t-il insisté. Je pense que nous avons beaucoup à apprendre des 20 ans de présence de l'OTAN et des États-Unis en Afghanistan, a-t-il conclu. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission, le débat. Dans le cadre de l'émission d'aujourd'hui, on va aborder l'arrivée de ce pétrolier iranien dans les eaux territoriales de la Syrie, ce pétrolier iranien qui transporte du pétrole pour le Liban. L'annonce avait été déjà faite par le secrétaire général du Hezbollah libanais, Seyyed Hassan Nasrallah, qui avait fait part du départ de ce pétrolier iranien pour transporter du pétrole pour le Liban, le Liban qui se trouve actuellement dans un besoin urgent, si vous voulez, en la matière. Seyyed Hassan Nasrallah, secrétaire général du Hezbollah libanais, avait dit, en annonçant cette nouvelle, que ce pétrolier iranien serait considéré comme faisant partie de la souveraineté du Liban, sera considéré comme le territoire libanais, à partir de son départ de l'Iran. Ce pétrolier se trouve actuellement dans les eaux territoriales de la Syrie et le pétrole doit être acheminé de la Syrie vers le Liban. Et quelle en est l'importance de cet événement? Quelles en est les conséquences? On va aborder cela avec deux invités de l'émission d'aujourd'hui. Avant de vous le présenter, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous propose un court reportage. On reviendra tout de suite après.
Disons les choses comme elles sont, les deux pétroliers iraniens ayant traversé sans accroc le canal de Suez, sans que les pressions US-Israël puissent faire fléchir l'Égypte de Sissi et le pousser à leur barrer la route, omis sans ce dessus, dessous la Méditerranée. Ne pas les attaquer signifie que l'axe US-Israël s'est de lui-même rendu à Canossa, quitte à ne pas faire respecter ses sanctions pour cause de crainte d'avoir affaire face au Hezbollah qui a lancé l'un des plus grands défis de toute l'histoire de l'Empire à son adresse, à savoir la territorialisation d'un pétrolier qui apporte au Liban un pétrole supraconfessionnel. Ce qui fait que si ces pétroliers sont pris pour cible, cette mer méditerranéenne souvent agitée connaîtra sa première guerre. Car, soit dit en passant, personne n'a cru ces derniers mois aux querelles de clochers à caractère gazier, Turquie, Grèce, Chypre, ni non plus au sérieux de ses griffes et dents que Sa Majesté et son porte-avions Queen Elizabeth ont montré à la Russie, bien installée à Tartous et prête à en découdre avec n'importe quoi oserait mettre en cause ses intérêts. Ce mercredi 1er septembre, alors que le QG Hezbollah Iran planifiait l'accueil des trois premiers pétroliers iraniens de l'histoire à atteindre Beyrouth et à relier le golfe Persique à la Méditerranée et à ouvrir, comme dans le cas de Venezuela, non seulement un corridor maritime anti-sanctions US à caractère commercial, mais aussi un corridor potentiellement militaire, un incident, un de plus, s'est produit à Haïfa. La presse israélienne évoque un problème technique dans l'une des raffineries de Haïfa, propre à faire augmenter le niveau de la pollution un problème lié au réservoir surmonté d'une liquide bizarre et des pompes trouées. Pour l'heure, la marine israélienne s'est retranchée sous les jupes de la 5e flotte US et simule son premier exercice naval conjoint en mer Rouge. Une attaque contre les pétroliers iraniens entraînerait le Hezbollah et l'Iran dans la guerre actuelle des navires qui fait rage dans les mers et les océans de la région. C'est une bataille que l'alliance américano-israélienne a définitivement perdue, surtout depuis l'attaque contre un navire israélien dans la mer d'Oman il y a un mois. La Grande-Bretagne a envoyé 60 de ses forces spéciales dans le gouvernorat d'Al-Mara pour poursuivre les auteurs de cette attaque en accusant directement les Yéménites. Le premier ministre libanais désigné a été éloquent dans sa réponse aux critiques des expéditions de pétrole iranien lorsqu'il a déclaré « Donnez-nous une bougie, nous ne refuserons pas ces expéditions sans alternative. L'Iran veut aider le Liban, alors pourquoi vos alliés en Amérique et dans le Golfe Persique n'ont-ils pas fait de même au cours de 6 derniers mois de la crise écrasante ?» Une chose est sûre, le Hezbollah sera le grand gagnant de l'initiative iranienne et Israël, le grand perdant, qu'il ose attaquer ou pas.
Merci beaucoup d'avoir choisi cette émission. Pour entamer notre débat, nous allons partir tout de suite à Damas, capitale syrienne, pour rejoindre un juriste français spécialisé des questions internationales, Maître Arnon Devollé. Maître Devollé, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Merci à vous et bonjour à votre invité.
Merci beaucoup. Maître Devollé, comment analysez-vous l'arrivée de ce pétrolier iranien dans les eaux territoriales syriennes, ce pétrolier dont le pétrole doit être acheminé de la Syrie vers le Liban?
Eh bien, écoutez, je crois que le moment de vérité approche. De toutes les manières, le Liban n'est pas dans une situation enviable, quels que soient les paramètres qui sont pris en compte. Soulager les pénuries, que ce soit dans les hôpitaux ou que ce soit dans les stations de service. On a appris en plus de ça que des personnes, des individus en fait conservaient des stocks pour les vendre à prix d'or. Et dans ce contexte-là, il est hors de question que le peuple libanais en subisse les conséquences. Donc, dans la mesure où les Américains ont maintenant avoué, suite à l'annonce faite précédemment par le Sayed Nasrallah, que l'Iran était prêt et disposé à délivrer du crude, la question ne se pose pas. C'est une question de vie ou de mort. Donc maintenant, la question va de savoir au niveau logistique comment cela va se traduire. J'ai cru comprendre que le premier pétrolier allait arrimé à Banias, que la cargaison serait ensuite déchargée dans des tankers, donc je suppose sur roue, et acheminée. Alors après, c'est la vraie question, c'est dans quel contexte, par quel biais, visiblement ce sera par voie terrestre, mais n'oublions pas que la frontière syro-libanaise maintenant est absolument perclue de tours électroniques de surveillance installées depuis maintenant quelques temps par les Britanniques. Ces derniers donc s'affairent à essayer de contrôler et d'intercepter tous les échanges et toutes les communications qui peuvent avoir lieu dans cette région hautement sensible, et que sur cette base-là, il sera intéressant de voir si des tentatives d'interception ne seront pas à l'ordre du jour. Si c'était le cas, on peut s'attendre au pire, parce qu'il n'est pas question, encore une fois, de laisser la population libanaise sans recours, que les promesses faites par les Américains, de toutes les manières, non seulement sont des promesses fondées sur une mauvaise foi patente, mais quant à leur implémentation, de toutes les manières, on parle de plusieurs mois, puisqu'il faudrait solliciter des votes dans plusieurs fora législatifs, des autorisations, dont celle de la de la Banque mondiale, ça prendrait quelque part 18 mois, d'après ce que les experts semblent mettre en avant. Et le peuple libanais n'a pas 18 mois. Maintenant, il est certain que la situation est certes différente de celle du corridor maritime établi entre l'Iran et le Venezuela, parce que là, les Israéliens sont effectivement directement, si je puis dire, concernés dans le sens où, selon eux, pour permettre par le biais du Hezbollah, de la façon dont eux voient les choses, pour l'Iran d'engranger un capital politique énorme au Liban, serait une catastrophe totale pour les Israéliens. On peut penser qu'ils sont en train de faire le maximum pour peut-être coordonner avec les Américains des opérations d'interception dans la région du canal de Suez. Il y a des rumeurs qu'un groupe de navires a quitté les États-Unis hier et se dirige dans la région. Je ne pense pas que ce soit pour admirer le paysage, vous voyez ce que je veux dire. Donc cette situation, de manière générale, se développe. Nous verrons d'ici les prochaines semaines, puisque de toute façon, les trois pétroliers ne sont supposés qu'être que le début d'un convoi maritime, comme vous l'avez dit vous-même, qui relierait le golfe Persique à la Méditerranée. Et nous verrons dans ce contexte-là ce que les Américains et les Israéliens concocteront pour essayer d'interrompre ce flot énergétique.
Merci beaucoup. Luc Michel, géopoliticien belge, spécialiste des questions internationales, vient de nous rejoindre en ligne depuis Bruxelles pour cette émission. Luc Michel, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour à vous et bonjour à Maître Dejolé, c'est toujours le plaisir de le voir.
Luc Michel, et de vous, quelle analyse portez-vous sur cet événement, c'est-à-dire l'arrivée de ce pétrolier iranien en Syrie, dont le pétrole doit être acheminé vers le Liban, et il va y avoir, selon des informations, d'autres pétroliers iraniens qui vont en fait se diriger vers en fait la région de Méditerranée pour acheminer, si vous voulez, du carburant, de pétrole, diesel, essence pour le Liban, pour le peuple libanais.
Moi, je vais élargir le sujet parce que le pétrolier, c'est un exemple de ce qui se passe. Il faut tout d'abord prendre deux données en cause, tout savoir la situation du Liban. Le Liban est victime d'une tentative de changement de régime des Français et des Américains, ce qu'on appelle un régime change. Il y a tout d'abord eu la guerre économique, c'était la loi César qui empêchait la reconstruction américaine donc de la Syrie, mais qui frappe au cœur les économies libanaises et irakiennes. Deuxièmement, on a transformé le mécontentement en tentative de révolution de couleur, comme il y avait eu la soi-disant révolution du Cèdre en 2005. Troisièmement, l'explosion du père de Beyrouth, elle a permis aux Américains et à Macron de s'engouffrer dans la brèche et de tenter de renverser la majorité politique existant au Liban et d'établir un gouvernement de techniciens liés à la France et au Fonds monétaire international. Enfin, il y a une quatrième chose, c'est le raid qui est mené par les réseaux de George Soros et l'Élysée et le Quai d'Orsay pour tenter de faire sauter la banque du Liban sous prétexte de biens mal acquis. C'est l'affaire de Bien Malaki qui était ouverte comme Riyad Salamé, le gouverneur de la Banque du Liban. Face à tout cela, le bloc de l'Est, mais en particulier l'Iran, y répond par une guerre asymétrique. Vous savez qu'on parle partout de la guerre hybride actuellement, parce qu'elle a été définie comme la principale menace par l'OTAN occidentale. Qu'est-ce que c'est la guerre hybride ? Ça permet à des puissances pauvres comme la Russie ou comme l'Iran de réagir et de mener des opérations en deçà de la guerre. Les Russes se souviennent qu'ils ont perdu la guerre froide et l'Union soviétique a implosé parce qu'ils ont été pris dans la course aux armements et l'affrontement classique, cela n'arrivera plus. Mais il faut savoir que la guerre asymétrique, elle a été inventée par l'Iran, pas par la Russie. La Russie l'a théorisée en 2013, mais en 2006, dans la guerre du Liban, justement, la guerre entre le Hezbollah et Israël, c'était la première guerre asymétrique. La guerre asymétrique, l'histoire du pétrolier, etc., elle vise justement à dynamiter la guerre économique classique, c'est-à-dire à combattre les sanctions, à combattre également le mécontentement organisé par la population. Donc, c'est quelque chose d'important. L'Iran, actuellement, mène une série de procédures. Le fameux corridor qu'on appelle Caracas-Téhéran, mais qui passe par Dakar au Sénégal, pour combattre la participation à l'OPEP du gaz avec les Russes, avec les Vénézuéliens, mais aussi avec les Équato-Guinéens de Malabo. C'est toutes des opérations qui sont en train de changer la face de la confrontation entre les blocs. Certes, il y a encore une confrontation maritime classique entre les marines russes et iraniennes alliées et les marines de l'OTAN, mais dans tous les autres domaines, c'est la guerre asymétrique. L'Iran est en train de très bien jouer. Il faut soutenir évidemment ses initiatives parce que c'est capital. Il ne faut pas se laisser enfermer dans la guerre classique dont le premier but est d'épuiser les adversaires du bloc américain pendant qu'eux s'enrichissent. Il faut au contraire dynamiter tout cela. Ça, c'est le rôle de la guerre asymétrique, de la guerre hybride, et c'est ce que l'Iran est en train de mener au Liban.
Et maître de volée, Luc Michel était avance cette idée de la guerre asymétrique. Vous l'avez dit, voilà, il y a en ce qui concerne cette affaire du transfert du pétrole iranien vers le Liban, si vous voulez, le rôle que pourraient jouer les Israéliens, si vous voulez, dans ce domaine. Et Seyyed Hassan Nasrallah, je viens de le dire tout à l'heure en début d'émission, avait dit que voilà, que ce pétrolier était considéré comme le territoire libanais. Et ce pétrole est considéré comme faisant partie de la souveraineté de Liban. Là, il s'agit en fait d'une question du prestige et de la crédibilité de la résistance libanaise également. Pensez-vous que le régime israélien osera intervenir directement, militairement, pour empêcher l'acheminement du pétrole iranien de la Syrie vers le Liban?
Je ne le pense pas, parce que prendre une telle décision reviendrait à s'exposer eux-mêmes en ce qui concerne leurs besoins énergétiques et leurs infrastructures. On sait que la résistance a amplement les moyens de réduire à néant, si je puis dire, les acheminements en gaz et en pétrole de l'État sioniste, que le site Léviathan et autres installations au large des côtes israéliennes sont parfaitement en ligne de mire. Et donc, ce serait, pour ainsi dire, du tac au tac. Est-ce que les Israéliens seraient prêts à risquer cela dans un conflit ouvert? J'en doute profondément. Les calculs, non seulement sur ce dossier, mais sur des dossiers de nature régionale, ne plaident pas en cette faveur. Maintenant, ça n'empêche pas que, comme l'a dit Luc Michel, nous puissions assister à des opérations de guerre secrète, de sabotage, avec de la pose de mines magnétiques sur tel ou tel bâtiment. Et puis, encore une fois, il faudra voir si l'axe donc américano-sioniste décide peut-être de prendre le problème, selon eux, en amont, et d'essayer de faire pression sur l'Égypte afin que cette dernière, de manière où elle puisse nier de manière plausible un problème quelconque, rendre inaccessible le canal de Suez. C'est une possibilité aussi. Mais encore une fois, les évolutions en ce qui concerne les alliances et les discussions qui ont pu avoir lieu récemment, par exemple à Bagdad, laissent entendre que l'Égypte ne sera peut-être pas forcément réceptive à ce genre de pression, parce que sur le long terme, ce n'est pas dans son intérêt. Et que la dernière chose que le pouvoir au Caire souhaiterait assister, c'est d'être plus ou moins tenu comme co-responsable d'affamer le peuple libanais. Donc, dans ce contexte-là, ça va être une guerre des nerfs, une guerre secrète, une guerre d'anticipation, une guerre complètement hybride, effectivement, et asymétrique. Mais qui de toute façon doit être menée puisqu'il s'agit vraiment de questions hautement humanitaires. On sait que de toute façon le régime de César est illégal, primo facie, hein, on its face comme on dit. Il n'a aucune légitimité au sein de la communauté internationale, celle-ci bien comprise. Et dans ce contexte-là, l'opinion publique, de toute façon, n'est pas en faveur de voir des efforts déployés pour empêcher les besoins les plus élémentaires de parvenir à ceux qui en ont le plus besoin.
Luc Michel, êtes-vous d'accord, si j'ai bien suivi en fait Maître de Voli, il dit voilà que la résistance libanaise a les moyens de sa politique, et plus précisément, et d'après vous, est-ce que l'axe de la résistance, l'Iran, la Syrie et le Liban en l'occurrence, a-t-il les moyens de sa politique, et en l'occurrence toujours en fait cette question du transfert du pétrole iranien vers le Liban?
Bien entendu, l'axe de la résistance a les moyens, mais il y a surtout des conditions qui sont propres à Israël. Israël vient de changer de majorité, et donc une des raisons de la majorité, c'était les risques de guerre avec le Likoud et Netanyahou. Et donc, ils ne peuvent pas se précipiter dans une guerre. Les gens du Likoud sont en embuscade. Il ne faut pas oublier que la nouvelle majorité israélienne, c'est une majorité contre nature qui va depuis des partis arabes islamiques jusque des partis d'extrême droite. La seule lien, c'était d'éliminer Netanyahou. Deuxièmement, les Israéliens sont dans une opération de séduction aux États-Unis. Vous savez que jusque-là, il y avait une alliance étroite entre le Likoud et Donald Trump. Et les Républicains avaient véritablement likoudisé l'impact de lobby pro-israélien. Cela s'est terminé. Maintenant, Israël a besoin, bien entendu, de Joe Biden. Elle est obligée de prendre des gants avec les démocrates, avec la nouvelle administration. Elle ne se ruera pas dans une guerre. Et troisièmement, il y a ce qui existait déjà, c'est-à-dire que l'armée israélienne a peur des conséquences. Je vous expliquais que l'OTAN, il y a une véritable obsession de la guerre hybride. Il y a un rapport du Pentagone qui est sorti il y a quelques mois, il y a un livre qui est sorti, il y a toute une campagne contre les médias, Presse TV, Afrique Média, moi-même, je suis cité dans ce rapport du Pentagone. La guerre asymétrique, elle est définie comme la principale menace contre les armées de l'OTAN et leurs alliés. Et dès lors, les Israéliens ont très peur d'une confrontation militaire. Ils ont été échaudés par la courte guerre à Gaza et en Cisjordanie, il y a quelques semaines, contre les Palestiniens, qui s'est très mal passé pour eux, et ils craignent évidemment une confrontation directe avec le Hezbollah. Le Hezbollah, qui est ce qu'on appelle justement un élément clé de la guerre asymétrique, c'est-à-dire que la guerre asymétrique, elle est menée par l'Iran et la Russie, par des acteurs non étatiques. C'est-à-dire que les conséquences diplomatiques qui seraient celles d'un affrontement entre États et entre armées n'existent pas dans la guerre asymétrique. Donc les gens de l'OTAN comme les Israéliens sont tout à fait perdus dans cette configuration. Ça explique leur panique, ça explique toute la gesticulation autour de cela. Et l'Iran, évidemment, il a saisi très intelligemment l'histoire pour aider le peuple libanais.
Maître de Volley, nous avons une minute devant nous. Le mot de la fin vous appartient, s'il vous plaît.
Oui, mais je pense que cette séquence peut être un tournant majeur dans cette stratégie de siège économique. Les deux, trois prochaines semaines seront, à mon avis, vitales. Et on peut espérer que les choses vont tourner parce que, de toute façon, la situation n'est plus tenable. Les tensions sont à leur extrême. Les peuples de la région sont fatigués. Et c'est une situation, je pense, où, dans l'absolu, la résistance n'a absolument rien à perdre et tout à gagner.
Merci infiniment, Maître Arnaud de Voley, d'avoir été avec moi pour cette émission par Skype depuis Damas. Mes vifs remerciements vont également à vous, Luc Michel, le géopoliticien belge spécialiste des questions internationales, d'avoir été avec moi en ligne pour cette émission depuis Bruxelles. C'est la fin de l'émission d'aujourd'hui. Merci infiniment de l'avoir suivi. Je vous souhaite à vous toutes et tous une excellente journée. Je vous dis au revoir, amis. À bientôt. Très bientôt.
Parole d'expert.
recevant mercredi un appel téléphonique de Charles Michel, le président du Conseil européen, le président iranien Seyed Ibrahim Raisi a averti contre une approche contre-productive de l'Agence internationale de l'énergie atomique qui risque de perturber le processus des pourparlers à Vienne. Le président iranien a souligné que l'Iran n'a jamais violé le pacte multilatéral. Et il a également ajouté que ce sont les Américains qui ont abandonné unilatéralement l'accord nucléaire et l'ont violé. Comment peut-on analyser cet avertissement du président iranien et quelle analyse portez-vous sur cette réaction de la France qui, par la voix de son porte-parole du ministère des Affaires étrangères, a prétendu que les conclusions des deux rapports du directeur général établissent un grave manque de coopération entre l'Iran et l'AIEA. Écoutons à ce sujet l'analyse de Luc Michel, géopoliticien.
Écoutez, c'est le vieux tropisme pro-israélien de Paris qui continue. On disait lors des négociations de Genève en 2015 que le ministre des Affaires étrangères de l'époque français, Laurent Fabius, en fait, il représentait Israël dans les négociations alors que le pays n'était pas représenté. La question centrale, c'est toute la propagande israélienne que notamment Netanyahou avait développée à la tribune des Nations Unies, c'est qu'il y aurait le risque que l'Iran se dote de la bombe atomique. Tout d'abord, vos autorités ont expliqué que pour des raisons éthiques et morales, l'Iran ne recherchait pas la bombe atomique. Mais secondement, c'est déporter le problème. Le vrai problème, c'est que la menace atomique au Proche-Orient, c'est une réalité. C'est la menace israélienne. Actuellement, les Israéliens ont de façon clandestine, puisqu'ils ne reconnaissent pas être une puissance nucléaire, ils ont 200 têtes. Cette technologie nucléaire, elle a été acquise précisément grâce à la France, grâce à l'Allemagne et grâce aux États-Unis. Qu'est-ce que c'est l'arme atomique israélienne aujourd'hui? Ce sont des missiles de croisière, cruise-missiles américains modifiés, portant chacun plusieurs têtes nucléaires. Ils sont montés sur des sous-marins de poche allemands de la classe Dolphin. Il y a eu un scandale notamment révélé par le magazine Die Welt il y a quelques années. On accusait directement Berlin et Mme Merkel d'être complices de l'arsenal nucléaire israélien. C'est une menace permanente puisque ces sous-marins de poche, ils croisent en Méditerranée et ils croisent en mer Rouge et ils menacent toute la région et tous les voisins d'Israël, y compris les pays européens. Il faut comprendre cela. Israël est radicalement opposé à la possession par un autre pays du Proche-Orient parce qu'ils veulent rester le seul possesseur de l'arme nucléaire. Ils pensent que c'est le mécanisme de défense ultime d'Israël, qui est un État menacé, évidemment. Il y a toute une théorie depuis les années 80 chez les historiens israéliens. Il faut un parallèle avec les États chrétiens lors des croisades qui ont duré 3 siècles en Palestine et qui finalement ont été rejetés à la mer. Ces Israéliens se demandent si ça ne va pas être cela le destin d'Israël. À partir de ce moment-là, Israël, avec l'aide des Américains, veut rester la seule puissance nucléaire et ça explique toute cette campagne contre l'Iran. C'est pas seulement l'Iran qui est visé. C'est-à-dire que les Israéliens pensent que si l'Iran se dotait de l'arme nucléaire, à ce moment-là, les Saoudiens et les Émiratis suivraient. Ça serait la prolifération, mais surtout la perte de la domination stratégique qui est la dernière existante, puisque les Israéliens ont perdu leurs autres moyens de domination stratégique. Ils ont perdu la parité militaire face à l'axe de la résistance et à la Syrie depuis que les Russes sont du côté de l'axe de la résistance. Ils ont perdu leur supériorité face aux milices pro-iraniennes, notamment le Hezbollah au Liban. Ils ont perdu leur supériorité dans la guerre économique, comme le démontre l'affaire des tankers de pétrole iranien qui se dirigent actuellement vers le Liban. Et à ce moment-là, les Israéliens veulent garder la dernière supériorité qui leur existe. Ça vous explique toute la position de Paris. Il faut noter que les gouvernements, non seulement français, mais britanniques, allemands, et l'Union européenne, notamment Charles Michel, ce sont tous des partisans de l'atlantisme et du sionisme. Israël est le principal allié de l'OTAN aux États-Unis. On l'a chargé de constituer, en Europe, excusez-moi, On les a chargés de constituer ce qu'on appelle l'OTAN du Proche-Orient, avec les Émiratis et les Français précisément, puisqu'il y a un axe naval Émiratis-France actuellement, qui est une grande puissance maritime. Voilà ce qui explique toute la position de Paris et les campagnes anti-iraniennes.
État en Guinée-Conakry, les prévisions se confirment. Le président guinéen Alpha Condé a été destitué à la suite d'un coup d'État dirigé par un ancien légionnaire de l'armée française. Cet événement confirme plusieurs aspects et prévisions sur lesquels Observateur Continental avait insisté dans le passé. S'il est encore trop tôt pour faire des prévisions sur la suite des événements en République de Guinée, il est néanmoins clair que c'était quelque chose d'attendu et de prévisible. Ce que l'on sait aussi, c'est l'exécutant du putsch en question. Il s'agit de Mamadi Doumbouya, l'ancien légionnaire de l'armée française, rappelé en Guinée en 2018 pour prendre la tête du groupement des forces spéciales. Selon les autres informations disponibles à son sujet, il a brillamment accompli la formation de spécialiste en protection opérationnelle à l'Académie de sécurité internationale. En Israël, le cours de formation des commandants d'unité à l'école d'application de l'infanterie au Sénégal, la formation d'officier d'état-major au Gabon et l'école de guerre de Paris. Bien qu'il soit effectivement tôt pour émettre des hypothèses sur les possibles liens existants entre Mamadi Doumbouya et des intérêts externes, son passé de légionnaire pour le compte français mérite tout de même une attention particulière. Tout comme le fait que parmi les principaux insatisfaits du gouvernement guinéen d'Alpha Condé se trouvait précisément Paris. En décembre de l'année dernière, Observateur Continental avait d'ailleurs consacré un article traitant du double standard élyséen vis-à-vis de Conakry et de Bangui d'un côté et d'Abidjan de l'autre, permettant de voir une approche purement orientée sur ses intérêts géopolitiques avec en couverture les critiques du déroulement des dernières élections présidentielles guinéennes tout en applaudissement, et c'est logique, la réélection du bon vieil ami france-africain Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire, dont les manœuvres en vue d'écarter ses principaux concurrents et représentants de l'opposition ne sont plus à présenter. Il faut se rappeler aussi qu'Alpha Condé était logiquement dans la ligne de mire des cercles france-africains de l'Élysée et ce ne serait que pour avoir plusieurs fois remis à leur place notamment des journalistes hexagonaux comme dans cette fameuse interview de septembre 2018 face à un journaliste de France 24, de RFI et de TV5 Monde. Un entretien ayant fait beaucoup de bruit à l'époque au vu du comportement provocateur et irrespectueux des journalistes français et de la fermeté dans les réponses du président guinéen qui n'a d'ailleurs pas manqué de poser la question légitime de savoir quel pays africain de l'espace francophone avait vraiment pu décoller. Mais si les perspectives immédiates en Guinée-Conakry restent encore inconnues, il y a néanmoins plusieurs éléments à faire valoir. Tout d'abord, ces événements en Guinée, au-delà de confirmer les prévisions données dans le passé, représentent indéniablement une réponse forte à tous ceux qui critiquent la volonté de nombre de pays africains d'accorder une trop grande importance à l'aspect sécuritaire dans la défense de leur souveraineté. Comme c'est notamment le cas pour l'Algérie, la Centrafrique, la Guinée équatoriale ou encore l'Éthiopie, bien que évidemment chacun ayant sa propre spécificité. D'autre part, il devient évident qu'au-delà de posséder une capacité défensive digne de ce nom, il est fort important d'entretenir des organes sécuritaires efficaces pouvant détecter et mettre hors d'état de nuire des éléments déstabilisateurs, d'autant plus si ces éléments sont téléguidés par les intérêts néocolonialistes des acteurs fort bien connus. Et qu'au vu des multiples échecs subis récemment par les intérêts occidentaux et leurs forces sous-traitantes à divers endroits du monde, y compris dans nombre de pays africains, il était tout à fait logique qu'ils allaient s'en prendre à des États moins protégés et peut-être moins sur les gardes que ceux qui ont évité ce type de scénario. Une chose demeure également certaine, sans une souveraineté véritable et complète, il ne peut y avoir de quelconque développement. Et sans une capacité défensive digne de ce nom, il est impossible de pouvoir parler d'une quelconque souveraineté. Cela sans oublier la maîtrise réelle des éléments intérieurs susceptibles de participer aux déstabilisations pour le compte d'intérêts néocoloniaux. Le reste à suivre.
Thank you.